Ce matin, nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons débuté la semaine dernière. Le thème de notre série est la loi de l'échelle. Que quelqu'un dise la loi de l'échelle. Notre texte de base est Genèse chapitre 28 au verset 12. Genèse chapitre 28 au verset 12. Il s'agit de Jacob, la vision de Jacob. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et Dieu se tenait au sommet de l'échelle. Alléluia. Nous avons donc vu que l'échelle est un instrument de mesure, et que le monde entier, la création entière, la nature toute entière est régie par la loi de l'échelle, car sur la terre, tout se mesure. Alléluia. Déjà, dès le jour de notre naissance, quand nous venons au monde, les sages-femmes mesurent notre taille, mesurent notre poids et inscrivent cela quelque part pour que cela soit consigné sur notre acte de naissance. Même l'heure de notre naissance est mesurée à la minute et à la seconde près. Quand nous allons à l'école, notre parcours scolaire mesure notre niveau d'apprentissage, notre niveau d'évolution dans la connaissance, dans l'acquisition du savoir. Quand je finis mes études et que je vais dans le monde du travail, je suis mesuré pour accéder même dans le monde du travail. Je suis mesuré au niveau de mes compétences, de mes connaissances, pour savoir si j'ai les capacités et les compétences requises pour occuper le poste qui est proposé. Et même quand je suis à l'intérieur de l'entreprise, mon employeur me mesure. À chaque fin d'année, il y a un bilan de compétences, il y a un bilan d'appréciation pour savoir si réellement j'ai évolué, si j'ai atteint mes objectifs et si je peux être promu à un poste éventuellement futur. Lorsque je me lève le matin pour venir à l'église ou encore aller au travail, j'ai besoin de faire attention au tableau de bord de ma voiture parce que ce tableau de bord a des jauges, plusieurs jauges. Une jauge d'huile, une jauge d'essence pour mesurer le niveau d'huile dans ma voiture, mesurer le niveau de carburant de ma voiture. Et j'ai intérêt à y prêter attention au risque d'être surpris désagréablement sur la route dans la circulation. Donc Dieu mesure toutes choses et la nature entière est régie par la loi de la mesure, la loi de l'échelle. Et on a vu que de la même manière, comme ce qui est visible tire son origine des choses invisibles, de la même manière, Dieu mesure notre vie. De la même manière, Dieu mesure notre relation avec lui. Et la raison pour laquelle Dieu se révèle à Jacob sur le chemin où il allait vers son oncle Laban, alors qu'il venait de recevoir une bénédiction, une parole de bénédiction. Voyez-vous, pour la petite parenthèse, bénédiction, la bénédiction est une parole. Dites, la bénédiction est une parole. La bénédiction, avant d'être quelque chose de matériel, d'être quelque chose de physique, d'être quelque chose de financier, etc., est d'abord avant tout une parole. Parce que le mot bénédiction vient du latin benedire, qui veut dire dire du bien. Pareil, la malédiction est une parole. Le mot latin, c'est maldire. Maledire, c'est mal dire, dire du mal de quelqu'un. Donc Jacob venait de recevoir une bénédiction de la part de son père Isaac, qu'il avait béni pour sa vie, qu'il avait béni pour sa destinée. Et alors qu'il était sur le chemin de sa destinée, Dieu se révèle à lui. Et lorsqu'il se révèle à lui, il voit une échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient, mais il n'est pas dit que Jacob est monté. Ce sont les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Retenez ce point. Et Dieu se tenait au sommet de l'échelle. Je l'ai expliqué la dernière fois. Pourquoi Dieu se tenait au sommet de l'échelle? Parce que notre Dieu ne vient pas à nous sur la terre n'importe comment. Rares sont les cas où la Bible nous révèle que Dieu descend du ciel sur la terre. L'une des rares fois, c'est lorsque le peuple de Dieu le loue et la donne un cœur sincère et que la louange de ce peuple est agréable à Dieu. Alors en ce moment, le cœur de Dieu est touché, Dieu est dans la joie et Dieu se lève de son trône et la Bible déclare qu'il descend de son trône et il vient et il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia! Parce que généralement, Dieu se tient au sommet de l'échelle et il nous attend. Et il nous challenge, il nous défie pour que nous puissions monter l'échelle, aller atteindre le sommet. Et quand vous lisez la parole de Dieu, dans toute l'histoire du peuple de Dieu, chaque fois que Dieu appelait un serviteur et qu'il faisait une alliance avec son serviteur et qu'il lui donnait une vision pour parler à son serviteur, Dieu lui donnait rendez-vous au sommet d'une montagne. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend toujours au sommet, jamais en bas. Toujours au sommet. Alors c'est notre responsabilité de gravir les échelons, de monter et d'aller à la rencontre de Dieu au sommet. Et c'est le message que Dieu envoie à Jacob. Jacob voit une échelle. Et Dieu est en train de montrer à Jacob que toi tu es sur la terre. Tu es là comme un poussin, en train de tourner en rond, tu cherches ta destinée. Voilà que tu viens par moyen tout à fait malhonnête de prendre la bénédiction qui était bien sûr destiné à ta vie. Et que par tes propres forces, tu veux atterrir la bénédiction et tu veux conquérir ta destinée. Mais moi je te dis, ta destinée dépend de moi. Alléluia. Ta destinée dépend de moi et tu n'as pas besoin de rester là comme un poussé, à tourner en rond et à chercher les voies et moyens tout à fait humains afin de pouvoir conquérir ta destinée. Arrête-toi un instant. Regarde-moi, je suis là. Regarde l'échelle. Parce que toutes les bénédictions attachées à ta destinée se trouvent en haut, dans les lieux célestes, là où je suis, là où la terre et la rouille ne peuvent détruire, là où les volants ne peuvent percer de robé. C'est là où se trouvent tes bénédictions, dans les lieux célestes. Et moi, je suis là, garant de tes bénédictions, garant de tes richesses, dans les lieux célestes. Je me tiens au sommet et je t'attends. Ne va nulle part. Monte. Alléluia. Viens vers moi, je t'attends. Afin que tu puisses posséder ton héritage. Alléluia. Et je te dis, mon frère et ma soeur, Jacob n'a pas gravé les échelons. Il a fallu que durant toute sa vie, Dieu l'enseigne comment graver les échelons. Et l'échelle était là pour lui montrer sa relation avec Dieu, pour lui montrer sa vie, pour lui montrer que sa relation avec Dieu est régie par la loi de la mesure. Et que toutes les actions qu'il entreprend aujourd'hui montre, révèle simplement qu'il est encore au niveau zéro de l'échelle. Qu'il n'a pas encore commencé à monter les marches. Il n'a pas encore commencé à monter. Et c'est pourquoi Jacob, la Bible ne nous dit pas que Jacob a monté. Pourquoi? Parce que si Jacob était monté, on aurait mieux compris que Jacob avait compris le message. On aurait su que Jacob est en train de commencer à recevoir la révélation comme quoi Dieu l'attend au sommet. Mais Jacob n'a pas compris la révélation. Jacob est resté au bas de l'échelle. Il a regardé, il a admiré les anges, il a vu l'échelle, il a vu, il s'est dit, oh certainement, l'Éternel est dans son endroit. C'est tellement l'Éternel est dans cet endroit, il est au milieu de nous ici. Mais beaucoup de personnes aussi réagissent pareil, comme Jacob. Ils viennent à l'église et ils sentent la présence de Dieu. Et parfois, ils ont même des visions, des révélations. Et ils sont contents de dire simplement, certainement, le Seigneur est dans cet endroit. Mais ils ne font aucun pas pour monter l'échelle. Et Jacob est resté. Il a continué son chemin. Et il a fallu, au travers de tout un processus, que Dieu l'enseigne à gravir les échelons. Et là, c'est tout un enseignement qu'on aura peut-être plus tard sur la vie de Jacob. Parce que chaque aspect de la vie de Jacob nous enseigne les étapes qu'il a traversées pour monter l'échelle. Oh, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, tu devais acclamer très, très, très fort le Seigneur. Alléluia. Chaque étape de la vie de Jacob nous enseigne comment il a fait pour monter l'échelle. Il n'a pas compris la révélation de Paris. Il a dû apprendre cette révélation. Il a dû apprendre à la comprendre au prix des expériences, alléluia, par lesquelles il est passé. Et beaucoup sont comme ça. Dieu leur accorde des révélations. Mais ils ne comprennent pas. On le saura. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Ils ne comprennent pas. Et Dieu est obligé de passer par des processus, des moyens autres que la révélation qu'ils ont reçue pour les amener à gravir les niveaux de l'échelle. Souvent quand mon épouse me dit, mais telle personne a fait ceci, pourtant on lui avait parlé, pourtant Tu l'avais eu en entretien. Pourtant, tu l'avais donné une direction prophétique. Mais je ne sais pas pourquoi il a... Je dis, ma puce, laisse tomber. Ma puce, laisse les gens faire leurs expériences. Alléluia. Et j'aime toujours lui répéter la même phrase. Ma puce, laisse les gens faire leurs expériences. Voyez-vous, la révélation est un moyen rapide par lequel Dieu veut que nous puissions passer pour atteindre notre destinée. Mais quand nous ne comprenons pas la révélation, Dieu est obligé d'utiliser les épreuves. Et nous apprenons au travers des expériences. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été sensibles à la révélation. Et Jacob n'est pas monté. Je vous ai dit tout à l'heure, notez pourquoi. Eh bien, je vous dis pourquoi il n'est pas monté. Parce qu'il n'avait pas compris. C'est quand on dit, ah, l'Éternel était ici. Et c'est tout. Ah, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes régis par la loi de l'échelle. Notre relation est régie par la loi de l'échelle. La question qu'on te pose, encore la pour la dernière fois, à quel niveau d'échelle es-tu, mon frère? On a vu que Dieu mesure notre vie spirituelle. Il mesure notre vie spirituelle à 12 niveaux. Je ne suis pas convaincu que ce soit réellement la liste exhaustive, mais c'est tellement, il y a beaucoup d'autres niveaux. Mais ce que j'ai pu identifier, c'est que premièrement, Dieu mesure notre niveau de maturité. Deuxièmement, Dieu mesure notre niveau de sainteté. Troisièmement, Dieu mesure notre niveau d'adoration. Quatrièmement, Dieu mesure notre capacité à entendre sa voix. Cinquièmement, Dieu mesure notre niveau de discernement, la capacité à discerner la volonté de Dieu. Car il y a une nuance entre la capacité à entendre la voix de Dieu et à discerner la volonté de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu et ne pas discerner sa volonté. Jacob était là, il a vu la vision et bien sûr, malgré la révélation, il n'a pas discerné la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'il monte les chaînes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un me comprend, qu'il dise Alléluia. Dieu mesure sixièmement notre niveau d'onction. Dieu mesure septièmement notre niveau de plénitude. Huitièmement, Dieu mesure notre niveau d'amour. Neuvièmement, Dieu mesure notre niveau de foi. Dixièmement, Dieu mesure notre niveau de grâce dans notre vie. Onzièmement, Dieu mesure le niveau de maturation de nos dons, car les dons aussi maturent. Et enfin, douzièmement, Dieu mesure également nos niveaux de bénédiction. Et je vous disais, pour la petite parenthèse, qu'il y a 12 niveaux de bénédiction, car nous sommes des enfants d'Abraham et nous héritons de la bénédiction d'Abraham. Or, la bénédiction d'Abraham est matérialisée par la bénédiction des 12 tribus d'Israël que Jacob a libérées sur chaque tribu d'Israël. Et ces bénédictions sont attachées à chaque tribu. Quand vous étudiez les 12 tribus d'Israël, chaque tribu a sa bénédiction et sa destinée prophétique. Et toutes les bénédictions sont attachées à leur destinée prophétique. Chaque tribu a une destinée prophétique. Et à chacune de ces destinées prophétiques est attachée une bénédiction. Et ces mêmes bénédictions sont révélées, entre autres, dans Deutéronome chapitre 28, où il cite les différentes bénédictions. Vous allez voir, il y en a 12. Alléluia. Si quelqu'un me comprend, qu'il dise Alléluia, Amen. Donc, on s'est arrêté là la dernière fois et je vous disais que c'était pour vous ouvrir l'esprit, pour introduire cette série d'enseignements. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant comment accéder aux différents niveaux de l'échelle. Nous allons apprendre les principes qui nous montrent comment progresser suivant l'échelle de notre vie. Et ce matin, j'aimerais simplement vous parler du premier niveau. Je vais vous parler de la maturité. Je suis à côté de quelqu'un, dit maturité. Il y a une deuxième personne, maturité. Dis maturité avec maturité. Non. J'ai dit de dire maturité avec maturité. C'est-à-dire que toi, tu dois dire à quelqu'un maturité, toi-même étant mature. Voilà, c'est pas le genre, sois mature. Non. Comme je peux dire maturité avec sagesse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Vos acclamations me font peur. Est-ce que c'est vraiment Dieu que vous acclamez? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu mesure notre niveau de maturité. Par définition, la maturité, selon le dictionnaire français, est l'état des fruits mûrs. L'état des fruits mûrs. De deuxième définition, l'état d'une chose, d'une personne qui approche du point où elle a toutes ses qualités. L'état d'une chose ou d'une personne qui approche du point où elle a toutes ses qualités. C'est ça la maturité. Troisième définition de la maturité, c'est l'état où le sens et la réflexion ont toute leur vigueur. C'est l'état de quelqu'un qui a atteint un niveau où la réflexion, la compréhension a toute sa vigueur. Et enfin, quatrième définition, c'est un état d'esprit. Dites état d'esprit. C'est un état d'esprit. Alors, j'aimerais aborder l'enseignement sur le principe de la maturité en fonction de ces quatre définitions. La première définition nous dit état des fruits mûrs. Cela voudrait dire qu'en fait, quand on parle de maturité, on pense tout de suite déjà aux fruits, n'est-ce pas? On pense aux fruits. Et donc ici, j'aimerais ressortir le principe de la fructification. Le principe de la fructification. Pour monter le niveau de l'échelle de maturité, il faudra que j'applique le principe de la fructification. Quand je parle de fructification, je vais parler de multiplication. Quand on dit que quelqu'un est fructueux, ça veut dire qu'en fait, il porte des fruits, il se multiplie. Je ne peux pas parler de porter de fruits si au départ, je n'ai pas parlé de semence. Parce que pour qu'il y ait fruit, il faut qu'au départ, il y ait une semence. Alléluia! Donc, pour que je parle de fruits, il faut au départ qu'il y ait une semence. J'ai noté que la maturité d'un homme se mesure par sa capacité à porter du fruit. Et son niveau de fructification, de multiplication. C'est quoi le fruit? Le fruit est avant tout une semence. Avant qu'on ait le fruit, avant qu'on ait la mangue, avant qu'on ait la pomme, avant qu'on ait la tomate, au départ, on a d'abord la semence qui correspond à ces fruits-là. Donc la première définition du mot fruit, c'est la semence. Un fruit est d'abord une semence. Ensuite, un fruit est le résultat de la semence. Ça, c'est très important. Donc, pour que je porte du fruit, il faut qu'il y ait une semence. Si dans ma vie, je ne porte pas de fruit, je dois me poser la question de savoir si j'ai reçu une semence. Il est évident que si je n'ai pas reçu la semence, je ne peux pas porter le fruit. La Bible nous parle de plusieurs types de fruits. Il y a le fruit de l'humilité. La Bible nous parle également du fruit de la sagesse. La Bible nous parle du fruit de l'esprit. La paix, la joie, la justice, la bonté, l'amour, etc. Donc si dans ma vie, je n'ai pas de patience, je manque de patience, cela voudrait seulement dire que, au départ, je n'ai pas reçu la semence de la patience. Si je manque de bonté, cela voudrait dire seulement que je n'ai pas reçu la semence de la bonté. Donc je ne peux pas porter le fruit de la bonté. Si je manque d'humilité, cela voudrait dire qu'au départ, je n'ai pas reçu la semence de l'humilité. Voilà pourquoi il me manque l'humilité. S'il me manque de joie, cela voudrait dire que je n'ai pas reçu la semence de la joie. Pour que je manifeste la joie, pour qu'il y ait un résultat de joie, pour qu'il y ait un résultat de bonté, pour qu'il y ait un résultat d'humilité dans ma vie, pour qu'il y ait un résultat de grâce, un résultat d'amour dans ma vie, une manifestation de ces choses qui sont visibles, il faut de part qu'il y ait la semence. Or, d'où nous vient la semence? La semence nous vient de la parole de Dieu. Alléluia! Bien-aimé, je suis ici en train de nous révéler un secret important et incontournable du processus de transformation de la vie de l'homme. Je ne peux pas être transformé dans ma vie si je n'ai pas compris ce principe. Parfois, je me pose la question, Seigneur, pourquoi, malgré les messages qui sont donnés, la vie des gens n'est pas transformée? Pourquoi? Et j'ai compris pourquoi. Vous pouvez venir à l'église, on peut donner tous les messages possibles. Si vous n'avez pas reçu la semence, vous n'aurez jamais la transformation. Parce que c'est la semence qui produit le résultat de la semence. C'est ça le fruit. Quand la semence est plantée, bien aimé, vous n'allez faire aucun effort pour que cette semence pousse. Parce que la semence elle-même obéit à une loi. La loi de la nature établie par Dieu. C'est la loi de la semence et de la moisson. C'est-à-dire que on récolte obligatoirement ce qu'on a semé. Alléluia! Donc, quand tu regardes ta vie, quand tu vois le fruit que tu manifestes, tout de suite, tu peux savoir quel type de semence tu as reçu dans ta vie, durant ton parcours sur la terre. Pour que tu changes les comportements que tu as aujourd'hui, pour que tu changes tes façons de penser, pour que tu changes tes émotions, tes sentiments que tu ressens, les colères et autres qui t'animent chaque jour, tu dois d'abord comprendre la semence que tu as reçue qui a été à l'origine de ce résultat. Alléluia! Sinon, tu pourras prier, tu pourras gêner, tu pourras demander qu'on prie pour toi, qu'on t'entoure, qu'on t'encadre, ta vie ne sera jamais transformée. Tu pourras même essayer de changer. Mais Dieu ne nous parle pas de changement. Ici, Dieu nous parle de transformation. Parce qu'il y a une différence entre le changement et la transformation. Voyez-vous, quelqu'un peut changer par une simple décision. En voyant les conséquences de ses actions, il réfléchit, un homme sensé, sans forcément être chrétien, il dit non, je prends une décision, je change. J'arrête de fumer. Je connais une collègue de travail. Elle est jeune. Elle vient de commencer sa carrière. Mais tout le temps, elle fumait tellement avec des collègues chaque fois. Pause fumée, pause cigarette. Et pour les culpabiliser un tout petit peu, de la bonne manière, je veux dire, je leur disais, oui, vous prenez une pause nicotine. Et chaque fois, ils disaient nicotine, enfin, ils voyaient le goudron. Et parfois, je leur disais, vous prenez une pause goudron. Et eux-mêmes, ils savaient de quoi je parlais parce qu'on avait déjà eu à discuter dessus. Et je leur ai dit, chaque fois que vous fumez, c'est le goudron que vous emmagasinez dans votre cœur. Donc, il y a une irrigation de goudron qui circule dans votre sang, dans votre corps. Et chaque fois que vous faites une pause cigarette, c'est une pause nicotine, c'est une pause goudron. Alléluia! Mais j'ai été surpris. Depuis un mois, cette jeune fille a pris la décision d'arrêter de fumer. Et elle y tient. C'est incroyable. Elle est païenne. Vous comprenez? Elle fume depuis son jeune âge. Mais elle a décidé d'arrêter de fumer. Je ne connais pas ses motivations. Je ne sais pas pourquoi elle a pris cette décision. Mais ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à tenir depuis un mois. Je me souviens quand on a été l'équipe de formateurs qui ont été déplacés de Bordeaux pour aller à Paris pour aller sur une formation. Elle faisait partie de l'équipe. Et donc, il y a des collègues qui fumaient autour d'elle. Et chaque fois, elle était tentée. Mais chaque fois qu'elle était tentée, elle disait non. Elle quittait le groupe, elle repartait en salle. Je te dis, mais c'est incroyable, elle est païenne. Alléluia. Bon, si les païens sont capables de le faire, à combien plus forte raison nous les chrétiens qui avons le Saint-Esprit? Mais pour eux, ce n'est pas la transformation. Pour eux, c'est le changement. Ils décident de changer, ils changent. Le changement, c'est l'aspect, le résultat extérieur. Amen, amen. Mais la transformation, elle part de l'intérieur. Elle détruit la racine du mal. Alléluia. Elle déracine le péché à la source. Amen, amen. Et quand le péché est déraciné à la source, en ce moment-là, ce qui te motivait, ce qui te poussait à agir n'existe plus. Du coup, automatiquement, ton extérieur aussi change. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est ça la transformation. Amen, amen. Donc, nous les chrétiens, nous avons la capacité d'être transformés. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Amen, amen. Le Saint-Esprit est en nous. Donc, il faut observer tes comportements. Il faut observer tes agissements, tes actions. Tes actions sont un fruit tes comportements soient un fruit. Tes agissements soient un fruit. Amen, amen. Les décisions que tu prends sont un fruit. Maintenant, quand tu as observé ces choses, automatiquement tu peux savoir toi-même quelle est la semence qui est derrière et qui est la cause, l'origine de toutes ces choses. Quand quelqu'un, par exemple, a tout le temps des mauvaises pensées, quelle est la source de ces mauvaises pensées? Avant de chasser ces pensées, il faut d'abord connaître la source. Il y a un frère qui est venu un jour pour qu'un serviteur de Dieu prie pour lui. Il a répondu à l'appel, il a dit au serviteur de Dieu, je veux que tu pries pour moi, que tu m'imposes les mains pour que je n'ai plus de pensées impures. Et j'ai été surpris, le pasteur lui a dit, non, je ne peux pas prier pour toi par rapport à ça. Parce que ça, ce n'est pas la prière qui résout ce problème. J'étais choqué, je me dis, comment il impose les mains, il chasse les pensées? Il a l'onction. En plus, c'est un bishop. Au nom de Jésus, les pensées. Il dit non, je ne peux pas. Il a dit devant tout le monde, je ne peux pas prier pour toi parce que ce sujet-là, ça ne marche pas comme ça. Alors j'ai assisté à l'entretien que ce pasteur a eu avec ce jeune homme. Et il est allé plus loin. Il a posé la question. Il dit, pourquoi tu as eu ces pensées? Et en remontant, on se rend compte que ce jeune homme, durant sa vie, a lu beaucoup de choses impures. Des livres impurs, de pornographie. Il a regardé des films mauvais, de pornographie. Et en fait, ce qui conditionnait ses actions, ce qui était à l'origine de ses actions, ce sont ces choses-là, ces semences-là qu'il avait reçues, qui étaient dans son esprit, dans son cœur. Et c'est ça qui produisait un résultat. Ce résultat, c'était le comportement impur, les pensées impures, les sentiments impurs. Donc, le fruit révèle la semence. Alléluia! Et la Bible déclare que c'est la loi de la semence et de la moisson. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras la chair, le péché, la corruption. Alléluia! Mais la Bible est claire. La Bible est claire. Galates chapitre 6, verset 8. Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption, le péché. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Donc, si tu veux avoir des comportements spirituels, si tu veux avoir un fruit spirituel, tu veux avoir des comportements spirituels, tu veux avoir des pensées spirituelles, des pensées pures, il faut que tu sèmes pour l'esprit. Amen, amen. Donc, si tu as des comportements impurs, tu as des actions impures, tu as des agissements impurs, sache que tu as semé pour la chair. Donc, la solution n'est pas comprise pour toi. La solution, c'est que plus que tu as semé pour la chair, donc tu as une semence de la chair, il faut détruire cette semence de la chair. Alléluia! Or, l'une des lois naturelles, c'est quoi? C'est qu'en fait, le plus petit est toujours détruit par le plus grand. Amen, amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour détruire la mauvaise semence qui est en toi, il faut que tu puisses recevoir une autre semence qui lui est supérieure. C'est la semence de l'esprit. Amen, amen. Donc, au lieu de regarder les films impurs, au lieu de lire des livres impurs, c'est valable pour les idéologies, c'est valable pour les conceptions erronées, c'est valable pour la mauvaise appréciation de la vie. Hein, pourquoi les gens ont toujours une mauvaise appréciation de la vie? Hein, tu sors, tu es là, tu dis franchement, le monde entier est méchant. Tu imagines, franchement, tu rentres dans un bus, dans un métro ou bien dans un tram, quelqu'un te regarde, bon, il sourit ou bien il rit, il t'a même pas regardé peut-être, il rit à quelqu'un, parce que tu es passé à côté, tu dis non, comme il m'a regardé avant et qu'ils se sont mis à rire tous les deux, donc ils se moquent de moi. Tu as une mauvaise appréciation de la vie et de l'environnement qui t'entoure. Tu interprètes tout. Toute chose pour toi a un sens forcément. Tout comportement de ton voisin, de ton collègue, de ton frère à l'église, dans la famille, de ton frère en Christ ou de ta soeur en Christ, tout pour toi, c'est diligenté contre toi. Donc du coup, tu développes les sentiments de susceptibilité, de complexe et tout le reste. Mais pourquoi ces choses? Parce qu'à la base, il y a une mauvaise semence qui est là. Et il faut que tu arrives d'abord à détruire cette semence avant d'être libéré de ces comportements, de ces agissements. Finalement, c'est même pas en réalité Dieu lui-même qui te transforme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la semence qui est en toi qui produit simplement les comportements qui sont en rapport avec la nature de la semence que tu as reçue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu plantes des graines de maïs, tu récoltes des maïs. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui plante une graine de maïs dans son jardin et qui reste là tous les jours, il fait un programme de prière? Et il vient chaque fois dans son jardin, il se met là, il lève les mains, il dit: Seigneur, je te prie de faire pousser, fais pousser, fais pousser, que le maïs pousse, 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 au nom de Jésus. Non. Quand il a planté, il s'en va, il va dormir. Et quand il revient, ça a poussé. Est-ce qu'il a eu besoin de prier pour que ça pousse? Non. Donc pourquoi tu vas prier pour que tu portes de fruits? Alléluia! Pourquoi tu vas prier pour que tu ne pêches plus? Alléluia! Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est la semence que tu as reçue. Tu as seulement besoin d'avoir une semence qui correspond au comportement que tu veux reproduire. Et sans faire d'effort.
Oh, alléluia!
Je vous dis, sans faire d'effort, automatiquement, les comportements se mettent en place. Pourquoi? Parce que la semence obéit à une loi. La loi de la semence et la moisson. Quand il y a la semence, elle pousse. Sans ton intervention, oui, tu vas arroser, forcément. Il faut que tu arroses. Il faut que tu viennes mettre des engrais, etc. Mais c'est Christ qui fait croître. Amen, amen. Alléluia. Mais quand j'ai compris ça, j'ai compris pourquoi dans l'église, beaucoup de personnes sont encore liées par des mauvaises habitudes, liées par des péchés, liées par des comportements. Et ils ont du mal à se débarrasser. Pourquoi? Parce qu'ils attendent à ce qu'on prie pour eux, qu'on leur fasse une délivrance particulièrement, que c'est toujours un démon qui est derrière. Vous savez, même s'il y a un démon derrière l'affaire, on peut chasser le démon. Tant que la semence est là, tu vas reproduire le même comportement. Parce que le problème n'est pas tant le démon. Le démon, il s'attache. Il vient derrière. Mais même s'il n'y avait pas de démon, les hommes sur la terre continueraient à pécher. Alléluia. Parce que le péché est le résultat d'une semence. Or, cette semence-là, ce n'est pas un démon. C'est une parole. C'est une information. C'est un enseignement. C'est une doctrine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si le démon part, tant que la personne est convaincue que tant qu'on est jeune, on doit vivre sa vie, et quand on sera âgé, à partir de l'âge de 25 à 30 ans, on commence à s'assagir, bien aimé, on peut chasser le démon, elle va continuer à faire sa vie. Alléluia! C'est la vérité. Pourquoi? Parce que même si le démon est parti, la semence de la fausse doctrine est là. Si tu as reçu la semence selon laquelle, quand tu es fiancé, tu as le droit d'embrasser ta fiancée ou ton fiancé, on peut chasser des démons. Tu continueras à l'embrasser. C'est la vérité. Tant que tu as reçu la semence selon laquelle, la dîme, c'est quelque chose de l'Ancien Testament, et que dans le Nouveau Testament, ça n'existe plus, on peut tout faire. Tu ne donneras jamais ta dîme à l'église. Pourquoi? Parce que la semence est là. Et l'intercession va prier pour qu'on chasse les esprits qui combattent l'église sur le plan financier. On va chasser les esprits au nom de Jésus. Le problème, c'est que si la semence est dans le cœur, les gens ne donneront jamais leur dîme au Seigneur. Et je pourrais prendre autant d'exemples. Le problème n'est pas le démon. Le démon, il s'accroche seulement. Il s'attache. Le problème, c'est la semence. Alléluia. Donc, pour porter du fruit, tu dois avoir une semence. Deuxième principe, cette semence doit mûrir. C'est le principe du mûrissement. Le mûrissement. Après le principe de la fructification, il y a le principe du mûrissement. Tout fruit que tu portes, donc le résultat que tu as là, ne doit pas rester au stade des résultats. Ça doit croître. Ça doit mûrir. Je peux avoir le fruit de la joie, mais ma joie ne peut être grande. Je peux avoir le fruit de l'humilité, mais mon humilité ne peut être grande. Je peux avoir le fruit de la bonté, mais ma bonté ne peut pas être grande. Alléluia! Ma bonté peut ne pas être grande. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas de porter de fruits. Il faut encore que ce fruit mûrisse. Mais pour que le fruit soit consommé, il faut qu'il mûrisse. Quand une mangue est encore verte, on ne peut pas la manger. Ça donne les maux de ventre. Quand un raisin est vert, on ne peut pas le manger. Autrement dit, nos dents seront agacées. Alléluia! Donc il faut que le fruit mûrisse. Et là on parle donc de la croissance. Pourquoi c'est important de mûrir? Parce que plus un fruit mûrit, plus il a de la valeur. C'est l'échelle des valeurs. Et on choisit un fruit en fonction de sa valeur. Donc je dois mûrir pour prendre la valeur. Je dois mûrir pour être de plus en plus important aux yeux de Dieu. Mais il y a eu beaucoup de semences qui ont été mises en terre, qui ont porté du fruit, mais le fruit n'a pas mûri. On n'avait jamais vu ça? Le fruit n'a pas mûri. Mais c'est une anomalie dans la nature. Quand il y a une semence qui a été jetée en terre et qu'elle porte un fruit, que le fruit ne mûrisse pas, ça reste au stade de bourgeon, au stade embryonnaire. C'est une anomalie parce que la loi de Dieu, c'est qu'on sème et on récolte. Et quand donc j'ai mis la semence en terre, cette semence devra mûrir pour qu'on récolte. Sinon, il y a une anomalie. Et on peut se poser la question, pourquoi finalement certains fruits ne mûrissent pas? Mais la loi de la semence en elle-même ne suffit pas. Il faut aussi qu'on associe à cette loi la loi du sol. Parce que la loi du sol aussi conditionne le fruit. Si le sol n'est pas profond, la semence va prendre, mais elle ne va pas croître. Alléluia! Si le sol est épineux, la semence va commencer à croître, mais elle va être étouffée. Donc du coup, le fruit ne pourra pas être mûr et il n'y aura pas de récolte. Or, la loi du sol, c'est la loi du cœur. Le sol, c'est notre cœur. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu ne peux pas mûrir dans le résultat de cette parole. Si ton cœur est épineux, ton cœur est rocailleux, ton cœur n'est pas favorable. C'est la raison pour laquelle tu peux venir à l'église tous les jours et écouter de très bons messages, de très bons enseignements, mais ta vie ne change pas. Tu commences à produire des comportements, mais tu n'es pas endurant dans tes comportements. Tu commences à produire un fruit, mais tu n'es pas endurant dans ton fruit. Tu prends des décisions, mais tu n'es pas endurant dans tes décisions. Tu sers le Seigneur, mais tu n'es pas endurant dans ton service. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es encore jeune. Jeune, tu es bourgeon, tu es bourgeon, tu es jeune. Or, la Bible déclare, les jeunes gens se fatiguent vite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les jeunes gens se lassent et se fatiguent. Quand tu es encore jeune, tu es encore épios, tu es encore enfant, tu vas te fatiguer vite, tu ne seras pas endurant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore mûr. Et tu peux recevoir beaucoup d'enseignements, de grands enseignements, de puissants enseignements, mais ta vie n'avance pas. Tu n'avances pas et tu stagnes sur l'échelle de ta vie, tu stagnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec la loi du sol. Ton cœur a encore beaucoup d'épines. Ton cœur a encore beaucoup de problèmes. Et c'est quoi ces épines-là? Mais c'est simple, ce sont les différentes formes de ton cœur. Voyez-vous, notre cœur a des formes. Quand Jean-Baptiste est venu, il est venu justement régler le problème du sol. Il est venu régler le problème du cœur. Il a dit, repentez-vous. Alléluia. Il est venu pour abaisser les collines. Il est venu pour combler les ravins. Parce que notre cœur a des formes. Notre cœur a parfois la forme d'un ravin, a parfois la forme d'une colline. Alléluia. Donc notre cœur a des formes, notre cœur a des tournures. On appelle ça des tournures d'esprit. Vous voyez, parfois notre passé a laissé des dégâts dans notre cœur. Notre passé a laissé des traces dans notre cœur. Et donc notre cœur a des formes. Notre cœur a des formes qui ne sont pas favorables à la manifestation du fruit de Dieu, du fruit de l'Esprit en nous. Donc ces formes doivent être redressées. Il y a des déviations. Des déviations parfois mentales, des déviations morales, des déviations des vices qui sont là et qui sont des forteresses qui sont érigées contre la connaissance de Christ et qui nous empêchent réellement d'avancer et de croître, de pouvoir monter l'échelle. Il faut renverser ces forteresses, il faut abaisser les collines, il faut combler les ravins, il faut fermer les fissures, il faut fermer les brèches afin que réellement la semence qui tombe en terre puisse porter le fruit et que le fruit grandisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu ailles de gloire en gloire, que tu montes l'échelle, que tu montes l'échelle de ta maturité avec Dieu. C'est la loi du sol. Elle conditionne ton mûrissement. Alléluia. Mais Dieu veut que tu mûrisses. L'avant-dernier point, c'est la loi de la qualification. On dit que la maturité, c'est un état, une chose, d'une personne qui approche du point où elle a toutes ses qualités. La qualification. Quand tu as mûri, quand tu as pris la valeur, tu es un homme de qualité. Tu es une femme de qualité. La Bible déclare que dans une maison, il n'y a pas que des vases d'un usage vil. Mais il y a également des vases d'honneur qui sont réservés à des occasions spéciales. Tu deviens un vase d'honneur qui est utile à ton maître. Tu deviens très important dans le royaume de Dieu. Et Dieu va t'utiliser à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que tu t'es qualifié. Et du coup, la vocation que tu as reçue de Dieu devient une qualification. Et tu es qualifié à cette vocation pour faire ce à quoi Dieu t'a destiné sur la terre. Mais vois-tu, parfois, l'étape de la qualification peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que tout dépend de ton travail. Tout dépend du travail de ton âme. Qu'est-ce que tu fais comme travail dans ton cœur? Tout dépend du temps que tu prends pour abaisser les collines, pour combler les ravins, pour former les fissures. Voyez-vous, c'est un travail qui peut prendre du temps. Parfois, Dieu peut te venir en aide. Parfois, Dieu peut permettre des circonstances. Il peut permettre des situations difficiles, des épreuves pour t'aider à corriger ton cœur. Voyez-vous, parfois les épreuves nous amènent à corriger notre cœur. Nous donnent une forme, une forme, une forme, une forme. Voyez-vous, notre cœur est comme de l'argile. Et vous devez laisser votre cœur rentrer dans le moule du divin potier qui est Christ, afin que ce cœur prenne la forme de Christ. Quand le cœur a pris la forme de Christ, alors en ce moment tu es qualifié à rentrer dans les champs de Dieu et faire l'œuvre de Dieu comme Dieu veut que tu le fasses. Mais il faut que le cœur soit moulé. Il faut que le cœur soit moulé. Il faut que le cœur prenne la forme du moule qui est Christ. Dieu veut que tu montes l'échelle. Dieu veut que tu te qualifies à un niveau plus grand. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je t'attends à un niveau supérieur cette année. Je me tiens au sommet de l'échelle et j'attends que tu montes. J'attends que tu montes. Oh, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est pas le fruit d'un hasard. Ne t'inquiète pas. Chaque fois que tu vois des épreuves autour de ta vie, c'est le signe que j'envoie vers toi pour te montrer que je suis en train de façonner ton cœur. Je te façonne. Je veux te donner une forme qui me plaît afin de te qualifier. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai tenu ma fille Manoa par la main et je lui montre l'escalier. Elle ne pouvait pas monter l'escalier. Quand elle faisait un faux pas, elle avait peur. Et à l'instant où le Seigneur m'a dit, elle ne peut pas monter l'escalier toute seule. Parce que quand elle a l'escalier, elle a peur. Plus maintenant, mais avant. Elle avait peur. Et Dieu m'a dit, C'est normal. Elle ne peut pas aller à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la maturité nécessaire. Bien-aimé, il y a des niveaux que tu ne pourras pas atteindre à cause de ta maturité. Dieu veut te donner une position sociale, mais tu as peur. Tu as peur de te lancer. Par exemple, Dieu te dit, ouvre un magasin de mode. Ouvre une entreprise informatique. Ouvre une entreprise de formation. Ouvre une unité de production dans le cosmétique, dans la mode, ou bien encore dans les produits de beauté. Et dans ton cœur, tu as plein de questions. Tu te dis, comment je vais faire? Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je vais y arriver? Je n'ai pas de moyens. Qui pourra? Comment je vais faire pour avoir un financement? Je ne connais pas comment ça fonctionne, les lois. Comment je vais faire? Le fait que tu te poses ces questions te révèle simplement que tu n'as pas encore la maturité nécessaire pour rentrer dans cette dimension. Tu n'as pas encore la maturité nécessaire. C'est un problème de maturité. Ce n'est pas un problème d'appel. Ce n'est pas un problème de vocation. Certainement, Dieu t'a appelé à faire la banque. Il t'a appelé à faire l'informatique. Il t'a appelé à créer une entreprise dans la mode, dans le cosmétique, ou peu importe. Ce n'est pas le projet, le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Mais ce qui arrête ce rêve, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas un problème de provision, parce que la provision est déjà nécessaire. Elle est disponible dans les lieux célestes. Le problème, c'est ta maturité. Tu n'es pas encore capable de monter l'échelle. Tu n'es pas encore capable de monter les échelons. C'est pourquoi tu as peur. C'est pourquoi tu hésites. C'est pour cela que tu te poses beaucoup de questions. Tu t'appelles à un appel politique. Tu as besoin de te qualifier. Mais comment te qualifier? Il faut que tu arrives à éliminer toutes les barrières, les limitations qui t'empêchent de monter. Tous ces questionnements-là, il faut que tu trouves les solutions. Mais pour cela, tu as besoin de lire. Tu as besoin de te documenter. Tu as besoin de t'informer. Tu as besoin d'accéder à un niveau de connaissance supérieur. Parce que la qualification, cette étape de maturité, est le résultat de l'instruction. Tu ne peux pas être un homme politique si tu n'as pas l'instruction nécessaire dans ce domaine. Tu ne peux pas être un homme d'affaires dans n'importe quel domaine si tu n'as pas l'instruction nécessaire. Donc l'instruction, la connaissance, l'information en rapport avec le domaine de ton appel va te faire grandir dans ta maturité, dans la connaissance. Et c'est là qu'on arrive à l'autre définition de la maturité qui dit un état où le sens de la réflexion a toute sa vigueur. Voyez-vous, mûrir en maturité, c'est aussi mûrir dans notre réflexion. C'est aussi mûrir dans notre connaissance. C'est aussi mûrir dans notre niveau de réflexion. C'est aussi mûrir dans notre niveau d'information. Voyez-vous, quand on accède à un niveau de connaissance élevé, on a moins de peur, on a moins de questionnements, et on a plus d'assurance, et on a plus de confiance en nous-mêmes et on avance. Le problème n'est pas la connaissance parfois, c'est le problème parfois simplement de la qualité de la connaissance. Quand la qualité de la connaissance est erronée, aussi ta maturité sera erronée. Donc tu as besoin simplement parfois de réajuster la qualité de tes informations, la qualité de ta connaissance. Et ensuite, tu verras que ta maturité va s'aligner à ta vocation et tu auras maintenant tout d'un coup dans ton cœur et soudainement une force qui va venir et qui va te propulser, qui va te pousser avec un courage de dire « va, force !» Va, force, tu réussiras. C'est pour toi. Saisis ta grâce. C'est une opportunité que Dieu te donne. Cette parole est pour toi. 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 Nom de Jésus. Rema Baba Shika. Shima Baba Shika. Ori Baba Shika. Tu as besoin de corriger ta morale. Tu as besoin de corriger ton éducation. Tu dois mûrir. Tu dois élargir l'espace des attentes. Tu dois étendre tes cordages. Vois-tu, les cordages, ce sont des cordes, un ensemble de cordes. C'est certainement les cordes de ta réflexion, les cordes de ton intelligence, les cordes de ta réflexion. Les nerfs, les neurones, de ton intelligence qui doivent s'élargir, qui doivent s'étendre. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu as besoin de lire. De lire parfois des livres qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont une connaissance dont tu as besoin, qui va renverser certaines limites dans ta vie, dans ta perception. Tu as besoin de franchir le... Alléluia. Tu as besoin de franchir la barrière de tes limites qui t'amènent à rejeter parfois des bouquins qui ont été écrits par des païens, mais qui pourtant contiennent des informations nécessaires à ton avancement. Des bons bouquins qui enseignent de bonnes choses, de très bonnes choses qui sont nécessaires pour ton projet, qui sont nécessaires pour corriger ta morale, pour corriger ton éducation. De mémoire, il y a des gens ici qui sont assis sur des principes de pudeur qui ne sont pas forcément de Dieu. Il y a une pudeur des pharisiens. Il y a une pudeur des pharisiens qui a amené les femmes à se voiler et à se couvrir les pieds entièrement. Je t'en prie que tu le comprennes parce que je suis en train de dire dans le mauvais sens. Mais Dieu veut te libérer d'une pudeur qui n'est pas de lui. Parce que c'est tellement l'un des signes qui va être révélateur à l'homme de ta vie. C'est ton visage. C'est ta posture de femme. Tu la caches par pudeur. Mais pour accéder au stade du mariage, parfois il faut renverser certaines pudeurs qui ne sont pas de Dieu. Parfois il faut renverser une certaine politesse parfois qui n'est pas de Dieu. Une certaine humilité qui n'est pas... Il y a des humilités qui ne sont pas de Dieu et qui vous empêchent d'accéder à des postes de responsabilité et qui cachent votre leadership, qui cachent votre potentiel et qui empêchent au patron de voir en vous un réel leader. Dieu parle à quelqu'un. Ta vie de couple ne va pas bien. Il y a des pudeurs qui sont dans ta vie qui sont un problème à ta vie de couple. Ce n'est pas un problème de Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème simplement au niveau humain à résoudre. Tu as besoin de revoir ta façon de t'habiller. Tu as besoin de revoir ta façon de te coiffer. Tu as besoin de revoir ta façon de te maquiller. Tu as besoin de revoir ta façon de te tenir avec ton mari à la maison. Tu as besoin de revoir un certain nombre de choses qui sont élémentaires et qui sont de l'ordre de l'éducation d'une femme. Tu as besoin de corriger ces choses. Et tu verras. Quand autrefois tu t'es culpabilisé en voulant le faire ou à l'idée de le faire, quand tu aurais corrigé cela par un enseignement correct, tu ne seras plus culpabilisé en le faisant. En ce moment, tu aurais compris que tu as mûri. Tu as mûri quelque part. Tu as mûri dans tes valeurs. Tu as mûri dans ton état d'esprit. Tu as mûri. Et donc, tu peux accéder. Tu peux être qualifié à un niveau supérieur. Tu parles à quelqu'un. Je vais terminer avec le dernier principe. C'est le principe de l'élévation spirituelle. La quatrième définition de la maturité, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Ici, Dieu veut nous révéler le principe de l'élévation spirituelle. Dans notre échelle de relation et de vie avec Dieu, Dieu veut faire de nous des géants spirituels. Il veut faire de nous des géants spirituels. Il veut passer de l'étape de nébuleuse à l'étape d'adultisme pour que tu sois un géant spirituel. Vois-tu un géant spirituel? Nous aurons l'occasion de voir cela dans le domaine de la foi quand nous en parlerons. Un géant spirituel, il a une perception, une vision de haut et non jamais d'en bas. Oh, Rebabashinda Babarashe, Kerebabarashe. J'aimerais, pour être court sur ce point, nous y reviendrons, faire une illustration. Je vais appeler ici quatre personnes, parce qu'il faut que je termine maintenant, alléluia. Avec le point, donc le principe de l'élévation spirituelle. Quand on parle d'élévation spirituelle ici, En attendant que les quatre personnes volontaires se désignent, j'aimerais vous faire comprendre que quand on parle d'élévation spirituelle, on parle d'une taille. Dites la taille. La taille. On parle d'une taille, la taille spirituelle. Donc, notre élévation dans le nouvel, donc, au niveau spirituel, on veut dire notre échelle avec Dieu va être fonction de notre taille. La taille spirituelle. Dites la taille spirituelle. Ou encore la stature. Dites la stature. Jésus croissait aussi en stature. Dites la stature. Voilà, cette stature, cette posture, cet acabit. Voyez-vous, cette carrure spirituelle. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Alignez-vous en face. Mettez-vous face au peuple de Dieu. Amen, amen. Donc Dieu veut nous élever spirituellement pour nous amener à un niveau de maturité spirituelle qui est un état d'esprit. État d'esprit. Un niveau spirituel. On a souvent appris que l'homme est composé de trois parties. Nous sommes esprit, nous avons une âme autant pour moi, et nous vivons dans un corps. Cela est juste, mais cela est incomplet. J'aimerais vous dire aujourd'hui de vous introduire une nouvelle notion. Prochainement, je vous introduirai encore une autre notion. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajouter une quatrième personne. Vous avez ici le corps. Vous avez l'âme. Et vous avez l'esprit. Alléluia. Sœur Jessica, tu vas venir juste à côté ici. À côté. Le corps, tu vas te mettre ici. Voilà. Vous voyez comment ils sont disposés? On s'en prend un peu là. Donc, je dis que tu es le corps. Toi, tu es. Tu es l'âme. Toi, tu es la chair. C'est ça? La chair. Toi, tu es l'âme. Toi, tu es l'esprit. Voilà. Quand Dieu nous a créés, la Bible déclare qu'il a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. Ensuite, il a injecté dans les narines de l'homme un souffle qui est son esprit. Et au moment où il a injecté ce souffle, la Bible nous dit que l'homme, c'est-à-dire la poussière, est devenu une âme vivante. Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'en fait, l'homme, l'humanité, c'est la terre. Mais dans cette humanité, il y a l'âme. Et avant que l'Esprit de Dieu ne vienne dans cette humanité, l'âme n'était pas vivante. L'âme, par conséquent, était morte. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu est rentré dans l'humanité, l'âme s'est réveillée. Mais écoutez le détail. L'homme est devenu une âme vivante. Du coup, il ne fait plus la dissociation entre l'homme, donc la poussière de la terre, et l'âme. Il dit, l'homme est devenu une âme vivante. Donc, l'humanité et l'âme deviennent une seule chose, mais vivante. C'est pas fini. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que l'âme est dans le sang. Le sang, c'est l'humanité. Maintenant, comme c'est l'Esprit de Dieu qui est venu créer cet état, et comme Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Donc du coup, cet homme qui est devenu une âme vivante devient une créature à l'image de Dieu. Donc, avec la nature de Dieu, devient un être divin. Et pendant toute sa vie dans le jardin, il va vivre en tant qu'être divin. Donc son âme, l'âme, c'est ça? L'âme, son âme, qui est le domaine de ses pensées, va avoir des pensées de Dieu. L'âme, qui est le domaine de ses émotions, va avoir les émotions de Dieu. L'âme, qui est le domaine de ses sentiments, va avoir les sentiments qui sont en Christ Jésus. L'âme, qui est le domaine de ses conceptions, de son enseignement, de ses informations, va avoir les informations qui viennent de Dieu, va avoir des choses qui viennent de Dieu, les conceptions de Dieu, la vision de Dieu, la perception de Dieu. Il n'y avait pas de problème jusque-là. C'est la raison pour laquelle l'homme pouvait obéir promptement à Dieu. Quand Dieu le visait dans le jardin, l'homme exécutait ce que Dieu lui demandait de faire. Maintenant, il se trouve qu'un jour, l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de manger l'arbre de vie. Mais vous savez que l'homme se nourrissait de l'arbre de vie de tous les jours de sa vie dans le jardin. Il se nourrissait de l'arbre de vie. Parce que c'était un être divin. Il mangeait tout ce qui portait la vie. Lisez Genèse. Donc, il mangeait le fruit de l'arbre de vie. Mais un jour, le diable lui propose de changer un peu d'alimentation. Et il propose le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait l'humanité. L'homme, aussi longtemps qu'il mangeait l'arbre de vie, restait dans sa nature divine et pouvait vivre comme Dieu. Mais le jour où il a mangé l'arbre, la connaissance du bien et du mal, il a quitté sa position de Dieu. Il est devenu un être humain et son âme, en ce jour-là, est morte. C'est pourquoi il est clair que si tu manges de cet arbre, tu mourras. L'âme était vivante, mais elle est devenue morte. Et pendant des siècles, des décennies, des générations, l'âme qui au départ était au service de Dieu va être au service de qui? De la chair. Alléluia. Parce que au départ, l'âme était au service de l'esprit de Dieu qui avait été injecté dans l'homme. Mais plus tard, avec la chute, cette âme va être maintenant au service de la chair. Donc, vous comprenez que la chair est opposée à l'esprit. Quand l'esprit était dans l'homme, l'âme était vivante et elle pouvait obéir à Dieu. Mais quand l'homme a péché, okay, l'âme est morte, okay, et l'âme s'est retrouvée du côté de la chair. Donc l'âme va être au service de la chair toute sa vie. Imaginez-vous quelqu'un qui est resté pendant 40 ans, 100 ans au service de quelqu'un. Vous venez lui dire que non, en fait, en réalité, ton véritable maître, ce n'est pas la chair, ton véritable maître, c'est l'esprit. Il aura du mal à te croire. C'est comme un enfant qui vient de naître, il n'a que un mois, deux mois, et qu'on perd dans une grande forêt. Vous ne retrouvez plus l'enfant. L'enfant a grandi, l'enfant a 60 ans. Quand vous retrouvez cet enfant et que vous lui dites que moi je suis ton père, il va dire non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que premièrement, il ne te reconnaît pas. Deuxièmement, il a grandi avec les animaux. Il a grandi avec des bêtes. Et il a appris le langage des animaux. Il a appris à manger la nourriture de la forêt des animaux. Mais en réalité, son origine, son identité originaire, c'est l'homme. Mais comme il est dans la forêt depuis 60 ans, depuis son enfance, il est devenu une bête. C'est pourquoi la Bible parle de l'homme animal. Il devient un animal. Et c'est ce qui s'est passé avec notre âme. Pendant longtemps, notre âme a été au service de la chair. Écoutez-moi. Quand Christ arrive, qu'est-ce qui se passe? Christ va faire un travail. Vous savez, le corps ne fait qu'obéir. Aussi longtemps que l'homme marchait par l'esprit. Donc l'esprit donnait le commandement à l'âme. L'âme obéissait et transmettait au corps. Le corps obéissait sans problème. Mais le jour où il a changé de maître, ce n'est plus l'esprit qui commande, c'est maintenant la chair qui commande. L'âme écoute le langage de la chair et l'âme transmet ce langage au corps. Et le corps ne fait qu'obéir. Le corps, c'est un serviteur de tout le monde. Il travaille pour celui qui l'embauche. Il travaille pour celui qui le paye. Alléluia! Donc le véritable problème, c'est la chair et l'esprit. Et l'âme, autant pour moi. Amen, amen. J'aimerais vous dire une chose. La chair, ce n'est pas le corps. La chair est un autre esprit. C'est pourquoi on ne peut pas voir la chair. On ne peut pas voir la chair. La chair, c'est un autre esprit. La chair, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit humain. La chair incarne l'humanité. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir, mais cet esprit, c'est qui finalement? Cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Alléluia! C'est même pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de l'homme et il y a l'Esprit de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit. Écoutez-moi. C'est qui l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Alléluia! Ça veut dire qu'en fait, c'est cette partie de Dieu. Comme toi, tu as un esprit avec petit E là. Toi, la personne. Ça c'est Dieu. Maintenant, Dieu, en dehors de cet esprit-là, il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'âme de Dieu. Parce que c'est dans le Saint-Esprit que sont les pensées de Dieu, que sont les sentiments de Dieu, que sont les émotions de Dieu, que sont les conceptions de Dieu, que sont les options de Dieu. C'est l'âme de Dieu. Alléluia. Donc, quand l'homme a péché, cet esprit-là, l'esprit de Dieu, n'était plus. Vous ne pouvez pas cohabiter avec l'esprit de l'homme. La divinité ne peut pas cohabiter avec l'humanité. Donc, il a laissé la place à l'humanité. Maintenant, quand on se convertit, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Et la version d'Arby et la version Jérusalem, Jérusalem, oui, dit ceci. Alors j'aime bien cette version qui dit, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Le vieil homme a disparu. C'est qui le vieil homme? Acclamons le Seigneur, alléluia. Le vieil homme a disparu. Et un être nouveau prend la place. Qui prend la place de la chair? Qui prend la place de la chair? Qui prend la place de la chair? L'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Christ. Alléluia! Donc Christ prend la place. Donc Christ naît en toi. Il est encore bébé. Ça revient à l'enseignement qu'on a donné. Amen, amen. Amen, amen! Maintenant, question. Est-ce que le vieil homme meurt? Il disparaît, mais il peut réapparaître. La preuve, elle a disparu, elle est réapparue. Merci, tu as bien joué ton rôle. Acclamons le Seigneur pour elle. Alléluia! Et donc, les quatre là cohabitent, c'est ce que nous vivons chaque jour. Ils sont là. Ils sont là. Donc, nous allons gravir les échelons en fonction de nos capacités à obéir à l'un et à l'autre. Parce que elle fait quoi? Exécuter. C'est tout. Mais comme l'âme qui est au milieu n'est que la couronne de transmission, l'âme, voyez-vous, c'est comme un DVD. Vous prenez le DVD, vous l'introduisez dans un lecteur DVD, il vous restitue ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si c'est la musique, il restitue. Si c'est l'image, si c'est l'image avec le son, il va restituer le tout. Okay? Si c'est un scellé, vous mettez, il restitue ça. L'âme, c'est sa fonction. Ce que vous mettez dans l'âme, elle restitue au corps. Donc le problème, c'est qui commande l'âme? Qui commande l'âme? Qui commande l'âme? C'est soit l'Esprit de Christ, soit l'Esprit de l'homme. C'est pourquoi on parle de l'homme spirituel et l'homme charnel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia! Donc, la chair, on verra plus tard comment il faut traiter la chair. C'est l'objet d'un autre point. Amen, amen. Et on verra aussi comment faire grandir l'Esprit de Christ. Quelqu'un me pose la question. Mais finalement, mon esprit, qu'on dit que moi je suis esprit, là, mon esprit avec petit E, est maintenant où? Qui peut lui répondre? Mais ton esprit avec petit E, c'est l'esprit de l'homme. Mais il est là. C'est ta chair. Maintenant, le Saint-Esprit est où? C'est la cinquième personne. Le Saint-Esprit va venir fortifier l'Esprit de Christ. Il va travailler à faire croître l'Esprit de Christ. On verra le travail du Saint-Esprit. Il va faire grandir le Christ en nous. C'est par le Saint-Esprit que Jésus est devenu le Christ. Alléluia. Il va faire grandir le Christ en nous. Ça, c'est la fonction du Saint-Esprit. Ok? Et comme l'Esprit de Christ va grandir, l'Esprit de Christ, ok, va fusionner avec l'Esprit de l'homme. Donc, l'homme, finalement, va disparaître. Et c'est là qu'on retrouve l'état de divin, comme au départ, à la création. L'homme devient une âme vivante. Amen, amen. Et pourquoi? Parce qu'elle disparaît et Christ prend la place. Quoi? Et une fusion entre l'homme et Christ. Et du coup, puisqu'elle disparaît, l'âme n'aura plus de problème. Il n'y a plus d'obstacle là. L'âme n'aura plus de problème à influencer le corps. C'est ça le processus de la transformation. Alléluia! Et c'est ça qui explique la loi de l'élévation spirituelle. Pour que je suis en train de parler de la loi de l'élévation spirituelle. Pour être un géant spirituel. Pour avoir une grande taille spirituelle. Je dois maîtriser ça. Maintenant, on verra comment faire pour que ça soit ainsi plus tard. J'ai pris plus de minutes que prévu, un quart d'heure de plus. Je vais m'arrêter là. Okay? On continuera la prochaine fois. Lève-nous, acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci, merci aux sœurs. Merci d'avoir vraiment été patientes. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Roi. Alléluia. Ça, c'est important. Quand j'ai une grande taille spirituelle, j'ai une grande carrure spirituelle, j'ai une grande posture spirituelle, j'ai donc un bon caractère. Alléluia. J'ai le caractère de Christ. Je reflète le Christ. C'est là qu'on peut maintenant parler du caractère de Christ. Amen, amen. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça me confère ce qu'on appelle le poids spirituel. Ça me donne du poids spirituel. Voyez-vous, lorsque Belshazzar a organisé un festin dans Daniel chapitre 5, verset 25, s'il vous plaît. C'est très important là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je sais que j'ai pris un peu plus de temps, mais c'est important. Il organise un festin, il boit le vin. Et pendant qu'il est en fête, il voit une vision et il voit une main qui est écrit sur le mur, et qui écrit les paroles suivantes. Comptez, comptez, pesez, divisez. Il appelle donc quelqu'un pour interpréter le songe. Daniel seul a été capable d'interpréter le songe. Et donc, qu'est-ce que Daniel va dire? Il va dire, le Seigneur te dit qu'il a compté le nombre des années de ton règne en tant que roi. Et il y a mis fin. Et maintenant, il dit, pesez. Ça veut dire que Dieu t'a pesé sur sa balance. Et il t'a trouvé léger. Dieu t'a mesuré spirituellement. Et il t'a trouvé léger. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton poids spirituel. Pourquoi tu as perdu ton poids spirituel? Parce que tu t'es enivré. Mais attention, c'est pas seulement parce qu'il s'est enivré. Quand vous lirez le passage dans Daniel chapitre 25, vous allez comprendre pourquoi Dieu s'est fâché. C'est parce que le roi Belshazzar est allé prendre les vases qui étaient réservés au temple, les vases d'argent et d'or qui étaient réservés au service de Dieu, et il a pris ces vases et il a bu le vin avec ça et avec ses convives. Alléluia. Donc ça, ça a blasphémé Dieu et ça a porté atteinte à sa spiritualité. C'est pour cela que Dieu lui dit, je t'ai pesé, je t'ai trouvé léger. Donc l'élévation spirituelle, j'expliquerai ça plus tard. L'élévation spirituelle va dépendre de notre poids spirituel. Quand Dieu te mesure, quand il te pèse, comment il te trouve? Comment il te trouve? Est-ce que tu pèses ou tu es léger? Et on verra ça plus tard parce que ça va aussi avoir un impact sur notre autorité spirituelle. Je ferme la parenthèse. Élevons-nous et prions ensemble. Prions, prions, prions. Oh là là, c'est kabarashi, kababakanaka. Prions. Je risque de m'étendre encore, mais on va s'arrêter là. Prions, prions, prions. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Il veut que nous puissions monter l'échelle. La loi de l'échelle nous amène à aller plus loin dans notre maturité avec Dieu. À grandir en maturité. Par la loi de la semence. Par le principe de la semence, par le principe du mûrissement. De la qualification de l'élévation spirituelle. Shimbambaba, shimbambabalashi. Korembambabalashi. Korembambabalashi. Merci Seigneur. Korembambambabalashi. 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 Merci Seigneur.